Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de missionnaires du Centre de formation des missionnaires de Provo, en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur l'Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui regardent la conférence dans les centres de pieux, dans différentes parties du monde où elle est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de missionnaires du Centre de formation des missionnaires de Provo, en Utah. Sous la direction de Ryan Eggett et de Elmo Keck, avec Linda Margetts et Bonnie Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Peuple du monde, écoutez donc ». Ensuite, Sharon Eubank, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera la prière d'ouverture.
Cher Père Céleste, c'est avec une immense gratitude que nous nous rassemblons pour la conférence générale. Nous sommes tellement reconnaissants d'être dirigés par Président Nelson et par la première présidence et les 12. Nous sommes tellement reconnaissants pour Sœur Ballard et tout ce qu'elle a apporté, son mari. Nous demandons d'être avec Président Ballard. Nous te demandons de nous donner de la foi et de la dévotion dans nos cœurs. Nous sommes tellement reconnaissants d'être chrétiens et membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et d'être témoins de ton Fils devant le monde. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence, va maintenant présenter les officiers généraux et les 70 d'interrégion de l'Église pour un vote de soutien.
Frères et sœurs, je vais maintenant présenter les autorités générales, les 70 d'interrégion et les présidences générales des auxiliaires de l'Église à votre vote de soutien. Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson comme prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dallin Harris Oakes comme premier conseiller dans la première présidence, et Henry Bennion Eyring comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Dallin Harris Oakes comme président du Collège des 12 apôtres et Melvin Russell Ballard comme président suppléant du Collège des 12 apôtres. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir en tant que membre du Collège des 12 apôtres M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Gerrit Walter Gong et Ulysse Suarez. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de soutenir Brooke B. P. Hales, nouvellement appelé comme 70 autorités générales. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de relever, en les remerciant pour leur service dévoué, Mervyn Arnold, Craig Cardon, Larry Echo Hawk, C. Scott Groh, Alan Packer, Gregory Schweitzer et Claudio Zivic de leur appel de 70 autorités générales et de leur octroyer le statut d'autorité générale et mérite. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur service remarquable le manifestent. Il nous est proposé de relever les 70 d'interrégion
B. Sergio Arturnes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans T. Bohm, Fernando E. Colorón, H. Marcus Marcelo Cardus, Paul R. Coward, Marion B. De Acantonio, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson,
Mervyn C. Giddy, Juan Roberto Graal, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Tazaro Makassi, Alvin F. Meredith III, Adone S. Obando, Katsuyoko Atahara, Fred A. Parker, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netzahualcoatl Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George J. Tobias, Jacques A. Van Rayen, Paul Eduardo Vicencio, Keith B. Walker, Daniel Yernia-Tierra.
Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et présidences générales d'auxiliaires actuelles. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, parlent le même signe. Nous invitons les personnes qui ont exprimé des avis contraires à prendre contact avec leur président de pieu. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église.
Le chœur interprétera maintenant un arrangement de « Je serai vaillant » et « L'Église de Jésus-Christ ». Après ce chant, nous entendrons Todd Christopherson du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Dean Davis, premier conseiller dans l'Épiscopat président. Ulysses Soares du Collège des Douze Apôtres nous adressera ensuite la parole.
Thank you.
Merci, sœurs et elders, pour ces merveilleuses voix. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a eu des périodes successives pendant lesquelles les enfants d'Israël ont honoré leur alliance avec Jéhovah et l'ont adoré, et d'autres pendant lesquelles ils ont ignoré cette alliance et adoré des idoles et des Baals. Le règne d'Achab était une de ces périodes d'apostasie dans le royaume du Nord appelé Israël. Un jour, le prophète Élie demanda au roi Achab de rassembler le peuple d'Israël, ainsi que les prophètes ou prêtres de Baal, à la montagne du Carmel. Une fois rassemblés, Élie leur dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Ou en d'autres termes, « Quand allez-vous décider une bonne fois pour toutes ?» Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie ordonna que les prophètes de Baal et lui découpent chacun un jeune taureau et le placent sur le bois de leur autel respectif, mais sans y mettre le feu. Puis il dit, « Invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Vous vous souvenez que les prêtres de Baal ont appelé de leur cri leur Dieu fictif pendant des heures, l'implorant d'envoyer du feu, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Quand ce fut au tour d'Élie, il répara l'autel brisé du Seigneur. Il déposa du bois et l'offrande, puis commanda que le tout soit arrosé d'eau. Non pas une fois, ni deux, mais trois fois. Il n'y avait aucun doute que ni lui, ni aucun autre pouvoir humain ne pouvait allumer le feu. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Aujourd'hui, Élie pourrait dire, soit Dieu, notre Père Céleste, existe, soit il n'existe pas, mais s'il existe, adorez-le. Soit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Rédempteur ressuscité de l'humanité, soit il ne l'est pas, mais s'il l'est, suivez-le. Soit le Livre de Mormon est la parole de Dieu, soit il ne l'est pas, mais s'il l'est, alors vous rapprocherez de Dieu en étudiant et en suivant ses préceptes. Soit Joseph Smith a vu le Père et le Fils au printemps de 1820 et conversé avec eux, soit il ne l'a pas fait. Mais s'il l'a fait, alors suivez le manteau du prophète avec les clés du scellement que moi, Élie, lui ai conféré. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson a déclaré, vous n'avez pas besoin de vous demander ce qui est vrai. Vous n'avez pas besoin de vous demander à qui vous pouvez réellement vous faire confiance. Par la révélation personnelle, vous pouvez recevoir votre propre témoignage que le Livre de Mormon est la parole de Dieu, que Joseph Smith est un prophète et que cette Église est celle du Seigneur. Quoi que d'autres personnes puissent dire ou faire, personne ne pourra jamais vous enlever un témoignage rendu à votre cœur et à votre esprit de ce qui est vrai. Quand Jacques a promis qu'à celui qui cherche sa sagesse, Dieu la donnerait simplement, il l'a aussi prévenu, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le Sauveur, lui, était l'exemple parfait de stabilité. Il a dit, le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours, uniquement, ce qui lui est agréable. Réfléchissez à ce que les Écritures disent d'hommes et de femmes qui, comme le Sauveur, étaient fermes et constants.
Ils étaient convertis à la vraie foi et ne voulaient pas s'en éloigner, car ils étaient fermes et constants et immuables, voulant en toute diligence garder les commandements du Seigneur. Leur esprit est ferme et ils placent continuellement leur confiance en Dieu. Et voici, vous savez par vous-même, car vous en avez été témoin, que tous ceux qui sont amenés à la connaissance de la vérité sont fermes et constants dans la foi et dans ce qui les a rendus libres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pour demeurer ferme et constant dans la foi au Christ, il faut que l'évangile de Jésus-Christ pénètre en notre cœur et en notre âme. C'est-à-dire que l'évangile ne devienne pas simplement l'une des nombreuses influences de notre vie, mais l'épicentre de ce qui définit notre vie et notre personnalité. Le Seigneur a dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Voilà l'alliance que nous faisons par le baptême et les ordonnances du temple. Mais certains n'ont pas encore complètement reçu l'évangile de Jésus-Christ dans leur vie. Bien qu'ils aient été ensevelis avec le Christ par le baptême, comme le dit Paul, il leur manque encore la partie « Comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » L'évangile ne les définit pas encore. Ils ne sont pas encore centrés sur le Christ. Ils choisissent les points de doctrine et les commandements qu'ils vont suivre et décident où et quand ils serviront dans l'Église. Au contraire, c'est en respectant leurs alliances avec exactitude que les personnes élues selon l'alliance évitent d'être trompées et demeurent fermes dans la foi au Christ. En ce moment, la plupart d'entre nous se trouvent partagés entre une participation au rituel de l'Évangile motivé par des considérations sociales, d'une part, et d'autre part, un engagement chrétien total à faire la volonté de Dieu. Quelque part, le long de cette trajectoire, la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ pénètre en notre cœur et prend possession de notre âme. Il se peut que cela ne soit pas instantané, mais nous devons tous avancer vers cet état béni. Il est difficile, mais essentiel, de demeurer fermes et constants lorsque nous sommes raffinés dans la fournaise de l'adversité, ce qui nous arrivera à tous, tôt ou tard, dans la condition mortelle. Sans Dieu, ces expériences sombres poussent au désespoir, au découragement et même à l'amertume. Avec Dieu, la consolation remplace la douleur, la paix remplace la tourmente et l'espérance remplace le chagrin. En demeurant ferme dans la foi au Christ, nous recevons le secours de sa grâce et de son soutien. Il transformera les épreuves en bénédictions et, pour reprendre les paroles d'Ésaïe, nous donnera un diadème au lieu de la cendre. Je vais mentionner trois exemples de personnes que je connais. Une femme souffre d'une maladie chronique invalidante qui persiste en dépit des soins médicaux, des bénédictions de la prêtrise, du jeûne et des prières. Néanmoins, sa foi dans le pouvoir de la prière et dans la réalité de l'amour de Dieu à son égard est intacte. Elle continue jour après jour et parfois heure après heure à remplir son appel dans l'Église et avec son mari prend soin de ses jeunes enfants, toujours souriante. Sa compassion pour son prochain est profonde et raffinée par ses souffrances. Et elle se perd souvent au service d'autrui. Elle persévère et reste ferme, et les gens se sentent heureux en sa présence. Un homme qui a grandi dans l'Église a été missionnaire à plein temps et a épousé une femme charmante, a été surpris quand certains de ses frères et sœurs ont commencé à critiquer l'Église et Joseph Smith, le prophète. Au bout de quelques temps, ils ont quitté l'Église et tenté de persuader de les suivre. Comme souvent dans ce genre de situation, ils l'ont bombardé d'articles, de podcasts et de vidéos réalisés par des détracteurs dont la plupart étaient eux-mêmes d'anciens membres de l'Église devenus hostiles. Ils se sont moqués de sa foi, lui disant qu'il était naïf et avait été trompé. Il n'avait pas les réponses à toutes leurs allégations et sa foi a commencé à chanceler sous le poids de leurs oppositions acharnées. Il s'est demandé s'il devait arrêter d'aller à l'église. Il a parlé avec sa femme, il a parlé avec des gens en qui il avait confiance. Il a prié. En méditant, tandis qu'il était troublé, il s'est souvenu de moments où il avait ressenti le Saint-Esprit et avait reçu un témoignage de la vérité par l'Esprit. Il en a conclu. En toute honnêteté, je dois admettre que l'Esprit m'a touché plus d'une fois et que le témoignage de l'Esprit est réel. Il a retrouvé le bonheur et la paix, sentiment que partagent sa femme et ses enfants. Un mari et sa femme, qui ont toujours suivi avec joie les conseils des apôtres, étaient affligés par leur difficulté à avoir des enfants. Ils ont dépensé des sommes d'argent énormes pour s'attacher l'aide de médecins compétents et au bout d'un moment, ils ont eu la bénédiction d'avoir un fils. Malheureusement, environ un an après sa naissance, le bébé a été victime d'un malencontreux accident qui l'a laissé dans un état de conscience altéré, avec graves lésions cérébrales. Il a reçu les meilleurs soins, mais les médecins ne peuvent toujours pas prédire l'évolution future de son état. L'enfant pour lequel ses parents avaient tant sacrifié et prié pour qu'il vienne au monde leur a en quelque sorte été enlevé et ils ne savent pas s'il leur sera rendu. Ils ont maintenant bien des difficultés à subvenir aux besoins essentiels de leur bébé tout en s'acquittant de leurs autres responsabilités. En cette épreuve infiniment difficile, ils se sont tournés vers le Seigneur. Ils comptent sur le pain quotidien qu'il leur donne. Des amis et des parents compatissants les aident et ils reçoivent des bénédictions de la prêtrise qui les fortifient. Ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Leur mariage est vraisemblablement plus fort et plus épanoui qu'auparavant. Le 23 juillet 1837, le Seigneur a donné une révélation à l'intention de Thomas B. Marsh, le président du Collège des 12 apôtres de l'époque. Elle dit ceci. « Prie pour tes frères des 12, avertis-les avec rigueur à cause de mon nom. » Qu'ils soient avertis pour leurs péchés. Sois fidèle devant moi à mon nom. Et lorsqu'ils auront été tentés et auront passé par beaucoup de tribulations, voici moi, le Seigneur, je les chercherai. Et s'ils ne s'endurcissent pas le cœur et ne roidissent pas le cou contre moi, ils seront convertis et je les guérirai. Je crois que les principes exprimés dans ces versets s'appliquent à nous tous. Les tentations et les tribulations que nous rencontrons plus toutes les mises à l'épreuve que le Seigneur juge bon nous imposer peuvent mener à notre conversion et notre guérison complète. Mais cela ne se produit que si et seulement si nous n'endurcissons pas notre cœur et ne raidissons pas notre cou contre lui. Si nous demeurons fermes et constants, quoi qu'il advienne, nous atteindrons la conversion à laquelle le Sauveur pensait quand il a dit à Pierre, « Quand tu seras converti, affermis des frères. » Conversion si complète qu'il ne peut y avoir de retour en arrière. La guérison promise à la purification et la sanctification de notre âme meurtrie par le péché, elle nous sanctifie. Je me souviens du conseil que donnaient nos mères. Mange tes légumes, c'est bon pour toi. Nos mères ont raison. Et dans le contexte de la constance dans la foi, manger nos légumes, c'est prier constamment, nous faire quotidiennement un festin des Écritures, servir dans l'Église, aller aux réunions, prendre dignement la Sainte Cène chaque semaine, aimer notre prochain et prendre chaque jour notre croix dans l'obéissance à Dieu. Souvenez-vous toujours de la promesse des bonnes choses à venir, aujourd'hui et plus tard, pour qui est ferme et constant dans la foi au Christ. Souvenez-vous de la vie éternelle et de la joie des saints. Ô vous tous qui avez le cœur pur, levez la tête et recevez la parole agréable de Dieu et faites-vous un festin de son amour, car vous le pouvez à jamais si votre esprit est ferme. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
En parlant du président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le Seigneur a déclaré, et de plus, le devoir du président de l'office de la haute prêtrise est de présider l'Église entière et d'être semblable à Moïse. Oui, d'être voyant, révélateur, traducteur et prophète, ayant tous les dons que Dieu confère au chef de l'Église. J'ai eu la bénédiction de voir quelques-uns des dons de Dieu chez ces prophètes. Je vais vous raconter l'une de ces expériences sacrées. Avant d'être appelé au poste que j'occupe aujourd'hui, je participais à la recherche et recommandais des sites possibles pour de futurs temples. Après le 11 septembre 2001, le passage aux frontières des États-Unis s'est renforcé. En conséquence, il fallait de 2 à 3 heures pour de nombreux membres de Vancouver au Canada pour traverser la frontière et se rendre au temple de Seattle aux États-Unis. Granby Hinckley, qui était le président de l'Église à cette époque, a dit que s'il y avait un temple à Vancouver, ce serait une bénédiction pour les membres de l'Église. Après avoir obtenu l'autorisation de rechercher un emplacement et avoir examiné plusieurs terrains appartenant déjà à l'Église, nous en avons examiné plusieurs autres n'appartenant pas à l'Église. Nous en avons trouvé un magnifique, proche de l'autoroute transcanadienne et qui autorisait la construction d'un édifice religieux. Le terrain était très facile d'accès, parsemé de magnifiques pins canadiens et dominait les environs, ce qui permettrait à des milliers d'automobilistes circulant à proximité de le voir. Nous l'avons présenté, photos et cartes à l'appui, lors d'une réunion mensuelle du comité des sites de temples. Le président Hinckley a donné son autorisation de nous engager par contrat auprès du vendeur et de faire les études nécessaires. En décembre de cette même année, nous avons fait rapport de nos études au comité et avons demandé l'autorisation de conclure l'achat. Après avoir écouté notre rapport, le président Hinckley a dit « J'ai le sentiment qu'il faut que je me rende sur le site. » Vers la fin du mois, 2 jours après Noël, je suis parti pour Vancouver avec le président Hinckley, le président Munson et Bill Williams, un des architectes des temples. À notre arrivée, Paul Christensen, le président du pieu local, nous a emmenés sur le site. Le temps était humide et brumeux ce jour-là, mais le président Hinckley a sauté de la voiture et a commencé à arpenter le site de long en large. Après un moment, je lui ai demandé s'il souhaitait voir les autres sites que nous avions envisagés. Il a dit oui, que cela lui plairait. En visitant les autres sites, nous avons pu comparer leurs qualités. Nous avons parcouru un grand cercle autour de la ville de Vancouver, examinant les autres terrains, avant de revenir au premier. Le président Hinckley a dit « C'est un beau terrain ». Puis il a demandé « Pouvons-nous aller à l'église qui se trouve à environ 500 mètres d'ici ?» Nous avons répondu « Bien sûr, président ». Nous sommes remontés dans nos voitures et sommes allés jusqu'à l'église toute proche. Quand nous y sommes arrivés, le président Hinckley a dit « Tournez à gauche ici ». Nous avons bifurqué comme il le demandait. La route a commencé à monter légèrement. Comme nous arrivions au sommet de la côte, le président Hinckley a dit « Arrêtez la voiture, arrêtez la voiture ». Il a alors montré du doigt une parcelle sur la droite et a dit « Et ce terrain-là, c'est là que doit être le temple. C'est là que le Seigneur veut que soit le temple. Pouvez-vous l'acquérir ?» Nous n'avions pas vu ce terrain. Il était plus éloigné de la route principale et rien n'indiquait qu'il était à vendre. Quand nous lui avons répondu que nous ne savions pas, il a montré le terrain et a répété « C'est là que doit être le temple ». Nous nous sommes attardés quelques minutes, puis sommes retournés à l'aéroport pour rentrer. Le lendemain, le président Hinckley nous a fait venir, Frère Williams et moi, dans son bureau. Il avait tracé un plan complet sur une feuille de papier. Les routes, l'église, le virage à gauche et un X à l'endroit du temple. Il nous a demandé ce que nous avions trouvé. Nous lui avons dit qu'il n'aurait pas pu choisir un terrain plus difficile à acquérir. Il appartenait à 3 personnes différentes. Un Canadien, un Indien, un Chinois. Le plan d'urbanisme ne permettait pas non plus d'y construire de bâtiments religieux. Il a dit, eh bien, faites de votre mieux. C'est ensuite que les miracles se sont produits. En quelques mois, nous avons pu acheter le terrain puis obtenir l'autorisation de la ville de Langley en Colombie-Britannique de construire le temple. En réfléchissant à cette expérience, je suis ému parce que Frère Williams et moi avions fait des études universitaires et acquis des années d'expérience en immobilier et en construction de temples. Mais le président Hinckley, qui n'avait pas cette formation, avait quelque chose d'infiniment plus grand, le don prophétique de voyant. Il avait pu voir l'endroit où devait se trouver le temple de Dieu. Quand le Seigneur a commandé aux premiers saints de cette dispensation de construire un temple, il a déclaré « Mais qu'une maison soit bâtie à mon nom, conformément au modèle que je leur montrerai. Et si mon peuple ne la bâtit pas conformément au modèle que je montrerai, je ne l'accepterai pas de ses mains. » Il en est de même pour nous, aujourd'hui, que pour les premiers saints. Le Seigneur a révélé et continue de révéler au président de l'Église les modèles selon lesquels le royaume de Dieu doit être dirigé à notre époque. Et à un niveau personnel, il nous montre comment nous devons mener notre vie afin que notre conduite soit, elle aussi, acceptable à ses yeux. En avril 2013, j'ai parlé des efforts engagés dans la préparation de la pose des fondations de chaque temple pour s'assurer qu'il puisse résister aux tempêtes et aux catastrophes auxquelles il peut être exposé. Mais les fondations ne sont que le début. Un temple est composé de nombreux éléments de construction assemblés selon un modèle prédéfini. Pour que notre vie devienne le temple que chacun de nous s'efforce de bâtir, selon ce que le Seigneur a enseigné, nous pouvons raisonnablement nous demander quels éléments de construction devons-nous assembler afin de rendre notre vie belle, majestueuse et résistante aux tempêtes du monde. Nous trouvons la réponse à cette question dans le livre de Mormon. Joseph Smith, le prophète, a dit du livre de Mormon qu'il était le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion, et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. L'introduction du livre de Mormon nous apprend que celui qui obtiendra du Saint-Esprit le témoignage divin que le livre de Mormon est la parole de Dieu, saura aussi par le même pouvoir que Jésus-Christ est le sauveur du monde, que Joseph Smith est son révélateur et son prophète en ces derniers jours, et que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume du Seigneur établi de nouveau sur la terre. Par conséquent, voici les éléments de construction de notre foi et de notre témoignage personnel. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Le livre de Mormon est la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume de Dieu sur la terre. Joseph Smith est un prophète, et nous avons des prophètes vivants sur la terre aujourd'hui. Au cours des derniers mois, j'ai écouté tous les discours de conférence générale que le président Nelson a donné depuis qu'il a été appelé à l'apostolat. Cela a changé ma vie. J'ai étudié 34 années de conseils choisis du président Nelson et y ai réfléchi, et des thèmes clairs et constants ont émergé de ces enseignements. Chacun de ces thèmes est en rapport avec les éléments de construction que je viens de mentionner, ou est une autre composante essentielle de notre temple personnel. Ces thèmes comprennent la foi au Seigneur Jésus-Christ, le repentir, le baptême pour la rémission des péchés, le don du Saint-Esprit, la rédemption des morts et l'œuvre du temple, la sanctification du jour de sabbat, commencer en ayant la fin à l'esprit et rester sur le chemin de l'Alliance. Le président Nelson les a tous évoqués avec amour et dévouement. Jésus-Christ est la pierre angulaire et l'élément de construction de base de l'Église et de notre vie. Cette Église est la sienne. Le président Nelson est son prophète. Ses enseignements témoignent de la vie, de la personnalité de Jésus-Christ et les révèlent pour notre profit. Il parle avec amour et en connaissance de cause de la nature du Sauveur et de sa mission. Il a aussi témoigné fréquemment et avec ferveur de l'appel divin des prophètes vivants, les présidents de l'Église, sous la direction desquels il a servi. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction de le soutenir comme étant le prophète vivant du Seigneur sur terre. Nous avons l'habitude de soutenir les dirigeants de l'Église en suivant le modèle divin, consistant à lever le bras à angle droit pour manifester notre acceptation et notre soutien. Nous venons exactement de le faire il y a quelques minutes. Mais un véritable soutien va bien au-delà de ce symbole physique. Comme le stipule Doctrine et Alliance 107.22, la première présidence doit être soutenue par la confiance, la foi et la prière de l'Église. Nous soutenons pleinement et sincèrement le prophète vivant lorsque nous acquérons l'habitude d'avoir confiance en ses paroles, d'avoir la foi d'agir en conséquence, puis de prier pour que le Seigneur le bénisse continuellement. Quand je pense au président Nelson, je trouve du réconfort dans les paroles du Seigneur qui disent « Si mon peuple veut écouter ma voix et la voix des serviteurs que j'ai nommés pour diriger mon peuple, voici, en vérité, je vous le dis, ils ne seront pas enlevés de leur place. » Si nous écoutons les prophètes vivants, il se produira dans notre vie des effets profonds qui la transformeront. Nous serons fortifiés. Nous aurons plus d'assurance et de confiance. Nous entendrons la parole du Seigneur. Nous ressentirons l'amour de Dieu. Nous saurons comment diriger notre vie pour qu'elle ait un sens. J'aime et je soutiens le président Nelson et tous les autres frères qui ont été appelés comme prophètes, voyants et révélateurs. Je témoigne qu'il a les dons que le Seigneur lui a conférés. Et je témoigne que si nous nous exerçons à mieux écouter et suivre la voix des prophètes vivants, notre vie sera bâtie selon le modèle divin que le Seigneur a prévu pour nous. Et nous récolterons des bénédictions éternelles. Cette invitation s'adresse à tout le monde. Venez écouter la voix d'un prophète. Oui, allez au Christ et vivez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour frères et sœurs. Comme on dit dans ma langue maternelle, le portugais brésilien, boa tarde. C'est pour moi une bénédiction de me réunir avec vous pour cette merveilleuse conférence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, sous la direction de notre prophète bien-aimé, président Russell M. Nelson. Je me réjouis de partager avec chacun d'entre vous cette magnifique occasion d'écouter la voix du Seigneur par l'intermédiaire de ses serviteurs qui sont sur la terre dans ces derniers jours. Mon pays d'origine, le Brésil, est très riche en ressources naturelles. L'une d'elles est le célèbre fleuve Amazon, l'un des plus larges et des plus longs du monde. Il est constitué de deux rivières distinctes, le Rio Silomoès et le Rio Negro. Il est intéressant de noter que ces rivières s'écoulent ensemble sur de nombreux kilomètres avant que leurs eaux se mélangent. Ce phénomène est dû à leur grande différence d'origine, leur vitesse, leur température et leur composition chimique. Après plusieurs kilomètres, les eaux finissent par se mêler pour devenir un fleuve différent des parties distinctes qui l'ont formé. Ce n'est qu'une fois que ces deux cours ont fusionné que l'Amazone, au moment où il atteint l'océan Atlantique, devient si puissant qu'il repousse l'eau de mer, à tel point qu'on trouve de l'eau douce sur plusieurs kilomètres dans l'océan. De même que le Rio Solimões et le Rio Negro fusionnent pour constituer le grand fleuve Amazon, les enfants de Dieu, aux origines sociales, aux traditions et aux cultures différentes, se rassemblent dans l'Église de Jésus-Christ rétablie et forment cette merveilleuse communauté de saints en Christ. Finalement, en nous encourageant, en nous soutenant et en nous aimant les uns les autres, nous nous unissons pour constituer une grande force bénéfique qui agit dans le monde. En qualité de disciples du Christ, unis dans le fleuve du bien, nous avons la capacité de procurer au monde l'eau douce de l'Évangile. Le Seigneur a inspiré ses prophètes de nous enseigner comment nous pouvons nous soutenir et nous aimer mutuellement afin d'être unis dans la foi et dans un même but pour suivre Jésus-Christ. Paul, l'apôtre du Nouveau Testament, a enseigné que ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Quand lors de notre baptême, nous faisons la promesse de suivre le Sauveur, Nous témoignons au Père que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom du Christ. En nous efforçant d'acquérir ses attributs divins, nous devenons différents grâce à l'expiation du Christ, le Seigneur, et notre amour pour tous grandit naturellement. Nous éprouvons un intérêt sincère pour le bien-être et le bonheur de chacun. Nous nous voyons comme des frères et sœurs, des enfants de Dieu aux origines, aux qualités et au potentiel divin. Nous désirons nous soucier et porter les fardeaux les uns des autres. C'est ce que Paul a décrit comme la charité. Mormon, prophète du livre de Mormon, l'a décrit comme étant l'amour pur du Christ, qui est la plus sublime, la plus noble et la plus puissante des formes d'amour. Notre prophète actuel, président Russell M. Nelson, a récemment décrit le service pastoral comme étant une manière de manifester cet amour pur du Christ, comme une manière plus ciblée et plus sainte d'aimer et de nous soucier des autres de la manière du Sauveur. Examinons ce principe d'aimer et de se soucier les autres à la manière du Sauveur pour encourager, aider et soutenir les convertis récents et les personnes qui commencent à montrer de l'intérêt en assistant aux réunions de l'Église. Lorsque ces nouveaux amis quittent le monde et embrassent l'Évangile de Jésus-Christ en se joignant à son Église, ils deviennent ses disciples et naissent de nouveau par lui. Ils laissent derrière eux un monde qui leur est familier et ils choisissent de suivre Jésus-Christ avec une ferme intention de cœur, se joignant à un nouveau fleuve semblable au puissant Amazone, un fleuve qui constitue une vaillante force de bien et de justice qui coule vers la présence de Dieu. L'apôtre Pierre les a décrits comme étant une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. En se fondant dans ce nouveau fleuve qui leur est inconnu, ces nouveaux amis peuvent se sentir un peu perdus au début et se trouvent à se mêler aux eaux d'un fleuve qui a sa propre origine, sa propre température et sa propre composition chimique. Un fleuve qui possède ses propres traditions, sa culture et son vocabulaire. Leur nouvelle vie en Christ peut leur paraître écrasante. Réfléchissez un moment à ce qu'ils peuvent ressentir quand ils entendent pour la première fois les expressions « soirée familiale »,« CEJ »,« dimanche de jeûne », »,« baptême pour les morts », »,« triptyque », etc. On voit facilement pourquoi ils pourraient avoir l'impression de ne pas être à leur place. Dans ce genre de situation, ils pourraient se demander « ai-je ma place ici ? Est-ce que je ne détonne pas dans l'Église de Jésus-Christ des cinq derniers jours ? L'Église a-t-elle besoin de moi ? Vais-je me faire de nouveaux amis disposés à m'aider et même me soutenir ?» Mes chers amis, dans ces moments-là, ceux d'entre nous qui se situent à des étapes différentes du long du voyage, du disciple, doivent tendre une main chaleureuse et amicale à nos nouveaux amis. Les accepter tels qu'ils sont et les aider, les aimer et les intégrer dans leur vie. Tous ces nouveaux amis sont de précieux fils et filles de Dieu. Nous ne pouvons nous permettre d'en perdre un seul, car, de même que le fleuve Amazone dépend de ses affluents qu'il alimente, de même nous avons besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous pour devenir une grande force bénéfique dans le monde. Nos nouveaux amis apportent avec eux les talents que Dieu leur a confiés, leur motivation et leur bonté, leur enthousiasme pour l'Évangile peut être contagieux et nous aider ainsi à vivifier notre témoignage. Ils apportent aussi de nouvelles perspectives à la compréhension que nous avons de la vie et de l'Évangile. On nous enseigne depuis longtemps comment nous pouvons aider nos amis à se sentir utiles, aimés et les bienvenus au sein de l'Église de Jésus-Christ rétablie. Ils ont besoin de trois choses afin de rester forts et fidèles durant toute leur vie. Premièrement, ils ont besoin de frères et sœurs dans l'Église qui s'intéressent sincèrement à eux, des amis fidèles et loyaux vers lesquels ils peuvent constamment se tourner, qui marcheront à leur côté et qui répondront à leurs questions. En tant que membres, nous devrions toujours être attentifs aux nouveaux visages qui assistent aux activités et aux réunions de l'Église, et ce, quelles que soient nos responsabilités. nos tâches ou nos préoccupations. C'est en faisant des choses simples que nous permettrons à nos nouveaux amis de se sentir bien accueillis et à l'aise dans l'Église. Les saluer chaleureusement, leur sourire sincèrement, nous asseoir à côté d'eux pendant leur réunion, les présenter aux autres membres. Tout cela dans le but de les aider à se sentir acceptés, aimés et les bienvenus. En ouvrant notre cœur à nos nouveaux amis de cette façon, nous agissons envers eux à la manière du Sauveur. En prenant soin d'eux à la manière du Sauveur, ils n'auront pas l'impression d'être des étrangers dans nos portes. Ils trouveront leur place et se feront de nouveaux amis. Et plus important encore, ils ressentiront l'amour du Sauveur grâce à l'attention sincère que nous leur apportons. Deuxièmement, les nouveaux amis ont besoin d'une tâche, d'une occasion de servir. Le servir est l'un des plus grands dons de l'Église de Jésus-Christ des cinq derniers jours. C'est le processus par lequel notre foi peut être fortifiée. Chaque nouvel ami mérite d'avoir cette occasion. Bien que l'évêque et le conseil de paroisse aient la responsabilité directe de proposer un appel à servir aux membres peu après leur baptême, rien ne nous empêche d'inviter nos nouveaux amis à nous aider à servir les autres de façon informelle ou par le biais de projets de service. Troisièmement, les nouveaux amis doivent être nourris de la bonne parole de Dieu. Nous pouvons les aider à aimer et à connaître les Écritures en les lisant et en discutant avec eux des enseignements qu'elles renferment, en décrivant le contexte des récits et en expliquant les mots difficiles. Nous pouvons aussi leur enseigner comment être guidés personnellement grâce à l'étude régulière des Écritures. De plus, nous pouvons nous rapprocher de nos amis en allant chez eux ou en les invitant chez nous en dehors de nos réunions et activités d'église habituelles et les aider à se fondre dans le puissant fleuve de la communauté de saints. Conscient des ajustements que nos nouveaux amis doivent faire et des difficultés qu'ils rencontrent en devenant membres de la famille de Dieu, autrement dit nos frères et sœurs, nous pouvons leur raconter comment nous avons surmonté les mêmes difficultés. Cela leur permettra de savoir qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu les bénira s'ils exercent leur foi en ses promesses. Quand le rio Solimões et le rio Negro fusionnent, l'Amazone devient un fleuve puissant et fort. De la même manière, quand nos amis et nous, nous nous unissons véritablement, l'Église de Jésus-Christ rétablie devient encore plus forte et plus solide. Ma chère femme, Rosanna et moi sommes profondément reconnaissants à toutes les personnes qui nous ont aidés à nous fondre dans ce nouveau fleuve il y a de nombreuses années quand nous avons embrassé l'évangile de Jésus-Christ dans notre pays d'origine. Tout au long des années, ces gens merveilleux nous ont servi sincèrement et nous ont aidés à persévérer dans le flot de la justice. Nous sommes tellement reconnaissants pour eux. Les prophètes de l'hémisphère occidental savaient bien ce qu'il fallait faire pour que leurs nouveaux amis continuent de s'écouler fidèlement ensemble dans le nouveau fleuve du bien menant à la vie éternelle. Par exemple, ayant vu notre époque et sachant que nous rencontrerions des difficultés semblables, Moroni a mentionné certaines de ces étapes importantes dans les écrits du livre de Mormon. Et après avoir été reçu au baptême et avoir été touché et purifié par le pouvoir du Saint-Esprit, ils étaient comptés par lui le peuple de l'Église du Christ. Et leur nom était pris pour qu'on se souvienne d'eux et qu'on les nourrit de la bonne parole de Dieu, pour les garder dans la voie droite, pour les garder continuellement attentifs à la prière, se reposant uniquement sur les mérites du Christ, qui était l'auteur et le consommateur de leur foi. Et les membres de l'Église se réunissaient souvent pour jeûner et pour prier et pour se parler l'un à l'autre du bien-être de leur âme. Mes chers compagnons dans l'œuvre du Seigneur, je crois que nous pouvons et devons faire beaucoup mieux pour accueillir de nouveaux amis dans l'Église. Je vous invite à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour être plus ouverts, plus accueillants et plus serviables à leur égard, et ce, dès dimanche prochain. Veillez à ne pas laisser vos responsabilités dans l'Église vous empêcher d'accueillir leurs nouveaux amis aux réunions et aux activités de l'Église. Après tout, ces âmes sont précieuses aux yeux de Dieu et bien plus importantes que les programmes et les activités. Je vous promets que si nous servons nos nouveaux amis, le cœur rempli d'amour pur à la manière du Sauveur en son nom, il nous aidera dans nos efforts. Si nous servons fidèlement les autres comme le Sauveur l'a fait, nos nouveaux amis obtiendront le soutien nécessaire pour devenir forts, engagés et fidèles jusqu'à la fin. Ils se joindront à nous pour devenir un peuple de Dieu puissant et nous aideront à apporter de l'eau douce à un monde qui a désespérément besoin des bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ. Ces enfants de Dieu n'auront plus l'impression d'être des étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je vous promets qu'ils reconnaîtront la présence du Sauveur dans son Église. Ils continueront de couler avec nous vers la fontaine de toute justice jusqu'à ce qu'ils soient accueillis à bras ouverts par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils entendent le Père dire « Vous aurez la vie éternelle ». Je vous invite à demander l'aide du Seigneur pour aimer les autres comme il vous a aimé. Mormon a lancé cette exhortation. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils Jésus-Christ. Je témoigne de ces vérités et le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Appelé à servir », numéro 160 dans le recueil de Cantiques. Après ce chant, nous entendrons Garrett Gong du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Paul Piper des 70.
Vous assistez à la 188e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Chers frères et sœurs, n'est-ce pas merveilleux de recevoir du ciel la révélation continue par l'intermédiaire du président Nelson et de nos dirigeants de l'Église qui nous invitent à adopter une manière nouvelle et plus sainte de vivre dans notre foyer et à l'Église et de le faire de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toutes nos forces. Vous est-il arrivé déjà de faire une chose pour laquelle vous vous êtes senti pris au dépourvu ou incompétent, mais d'avoir été béni pour avoir essayé? Ça m'est arrivé. Voici un exemple. Il y a quelques années, Richard G. Scott, du Collège des 12 apôtres, m'a gentiment demandé, « Garrett, voudriez-vous faire de l'aquarelle avec moi ?» Frère Scott m'a dit que la peinture l'aidait à observer, à créer. Il a écrit, « Essayez d'être créatif, même si les résultats sont modestes. La créativité peut susciter un esprit de gratitude pour la vie et pour les talents que le Seigneur nous a donnés. Si vous choisissez avec sagesse, cela ne vous prendra pas nécessairement beaucoup de temps. » Henry Behring dit que ses méditations artistiques sont motivées par un sentiment d'amour, notamment, je cite, « l'amour du Créateur qui attend de ses enfants qu'ils deviennent comme lui, qu'ils créent et construisent ». Fin de citation. L'œuvre créatrice du président Ehring offre une perspective unique et spirituelle du témoignage et de la foi. Les œuvres d'art de Boyka Packer illustrent un message fondamental de l'Évangile. Dieu est le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Que la nature témoigne de cette création divinement dirigée et qu'il y a une totale harmonie entre la nature, la science et l'Évangile de Jésus-Christ. Fin de citation. Alma a dit, « Tout montre qu'il y a un Dieu. » Les enfants de la primaire chantent, « Quand j'entends l'oiseau chanter dans les bois, quand je vois le bleu du ciel, je suis très heureux de ce monde si beau que le Seigneur a créé pour moi. » Victor Hugo a dit, je cite, « Il y a entre les êtres et les choses des relations de prodiges dans cet inépuisable ensemble de soleil à pucerons. Tous les oiseaux qui volent ont à la patte le fil de l'infini. Une nébuleuse est une fourmilière d'étoiles. » Fin de citation. Cela nous ramène à l'invitation de Frère Scott. J'ai répondu, Frère Scott, j'aimerais devenir plus observateur et plus créatif. Je me réjouis à l'idée que notre Père Céleste peint avec des volutes de nuages et toutes les nuances du ciel et de l'eau. Mais j'ai alors marqué un long silence. Frère Scott, je n'ai aucun talent pour l'aquarelle. J'ai bien peur que vous soyez déçu en essayant de me l'enseigner. Il a souri et nous avons convenu d'un rendez-vous. Le jour J, il avait préparé les feuilles, la peinture et les pinceaux. Il a tracé quelques contours et mouillé le papier pour moi. Nous avons pris comme modèle sa magnifique aquarelle intitulée « Feu de camp au crépuscule ». Pendant que nous peignions, nous avons parlé de la foi. Dit que lorsque nous sommes face à la lumière et à la chaleur d'un feu de camp, nous tournons le dos aux ténèbres et à l'incertitude que pendant de longues nuits de solitude, le feu de camp d'autrefois peut nous donner de l'espérance et de l'assurance. Puis vient l'aube. Le feu de camp d'autrefois, où nos souvenirs, nos expériences et notre héritage de foi en la bonté et la miséricorde de Dieu nous a fortifiés tout au long de la nuit. Mon témoignage est que pour qui la recherche, l'accepte et vit pour elle, la foi naîtra ou renaîtra, parfois graduellement. La lumière viendra si nous la désirons et la recherchons, si nous sommes patients et obéissants au commandement de Dieu, si nous sommes ouverts à sa grâce, à sa guérison et à ses alliances. Lorsque nous avons commencé à peindre pour m'encourager, Frère Scott m'a dit, « Gerrit, même après une seule leçon, vous peindrez quelque chose que vous voudrez conserver et dont vous voudrez vous souvenir. » Frère Scott avait raison. Je chéris l'aquarelle du feu de camp d'autrefois que Frère Scott m'a aidé à peindre. Mes talents artistiques étaient et sont restés limités. Mais le souvenir du feu de camp d'autrefois peut nous encourager de cinq manières. Premièrement, le feu de camp d'autrefois peut nous inciter à trouver de la joie dans une créativité saine. Il y a de la joie à imaginer, à apprendre, faire de nouvelles choses épanouissantes. C'est particulièrement vrai lorsque nous renforçons notre foi et notre confiance entre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous aimer suffisamment pour nous sauver nous-mêmes. Mais notre Père Céleste nous aime et nous connaît davantage que nous nous aimons ou connaissons nous-mêmes. Nous pouvons faire confiance au Seigneur et ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Avez-vous déjà été la seule personne à ne pas être invitée à une fête d'anniversaire? Vous est-il arrivé d'être choisi en dernier ou pas du tout pour faire partie d'une équipe? Vous êtes-vous préparé pour un examen scolaire, un entretien d'embauche, une occasion qui vous tenait à cœur et avait eu le sentiment d'avoir échoué? Avez-vous prié pour le succès d'une relation qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas abouti? Avez-vous eu une maladie chronique, été abandonné par votre conjoint, ou vous êtes-vous fait du sang d'encre pour un membre de votre famille? Notre Sauveur connaît notre situation. Lorsque nous exerçons le libre arbitre que Dieu nous a donné et que nous faisons appel à toutes nos facultés avec humilité et foi, notre Sauveur, Jésus-Christ, peut nous aider à faire face aux difficultés et aux joies de la vie. La foi comporte le désir et le choix de croire. La foi vient aussi de l'obéissance au commandement de Dieu, donné pour nous bénir si nous suivons le chemin des alliances. Quand nous nous sentons incertains, seuls, frustrés et en colère, déçus ou coupés de Dieu ou de son Église rétablie, il faudra peut-être un surcroît d'effort et de foi pour retourner sur le chemin des alliances. Mais cela en vaut la peine. S'il vous plaît, allez ou retournez au Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu est plus fort que les liens de la mort, temporels ou spirituels. L'expiation de notre Sauveur est infinie et éternelle. Il nous arrive à tous de nous égarer et de ne pas être à la hauteur. Il se peut que pendant un temps, nous perdions notre chemin ou que nous soyons, ou que nous ayons été ou fait. Dieu nous assure avec amour qu'il n'y a pas de point de non-retour. Il attend, prêt à nous prendre dans ses bras. Deuxièmement, le feu de camp de notre foi peut nous pousser à trouver de nouvelles façons de servir, plus élevées, plus saintes et davantage remplies de l'Esprit. C'est ce qui suscite les miracles et les bénédictions de l'appartenance à l'Alliance dans laquelle nous sentons l'amour de Dieu et cherchons à servir les autres dans ce même esprit. Récemment, Sir Gong et moi avons fait la connaissance d'un père et de sa famille qui ont eu la bénédiction d'un frère de la prêtrise fidèle demander à l'évêque s'il pouvait faire équipe avec le père de famille pour des visites d'enseignement. Le père n'était pas pratiquant ni intéressé par l'enseignement au foyer. Mais quand son cœur a changé, lui et ce frère de la prêtrise aimant ont commencé à aller voir leur famille. Après l'une de ces visites, sa femme, qui n'allait plus à l'église non plus, a demandé à son mari comment les choses s'étaient passées. Le père a reconnu qu'il avait peut-être senti quelque chose, puis est allé dans la cuisine se servir une bière. Mais une chose en a entraîné une autre. Des expériences touchantes, le service pastoral qu'il a rendu, le changement de cœur, les cours de préparation au temple, l'assistance à l'église, le scellement en famille dans le temple sacré. Imaginez la reconnaissance des enfants et des petits-enfants envers leur père et leur mère et envers le frère de service pastoral venu en ami et qui a fait équipe avec leur père pour aimer et servir les autres. Troisième feu de camp d'encouragement à la foi. Les joies et les bénédictions créatives de l'Évangile se manifestent lorsque nous efforçons d'aimer le Seigneur et notre prochain de tout notre cœur et de toute notre âme. Les Écritures nous invitent à déposer tout ce que nous sommes et devenons sur l'autel de l'amour et du service. Dans l'Ancien Testament, le Deutéronome nous enjoint. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Josué lance cette exhortation. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Dans le Nouveau Testament, notre Sauveur rappelle les deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Dans le Livre de Mormon, autre témoignage de Jésus-Christ, on nous dit que le roi Benjamin a œuvré de toute la puissance de son corps et des facultés de toute son âme et a établi la paix dans le pays. Dans les doctrines alliances, comme le savent tous les missionnaires, le Seigneur nous demande de le servir de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Lorsque les saints sont entrés dans le comté de Jackson, le Seigneur leur a commandé de sanctifier le jour du sabbat en l'aimant, lui, leur Dieu, de tout leur cœur, de tout leur pouvoir, de tout leur esprit et de toutes leurs forces, et de le servir au nom de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons de l'invitation de consacrer toute notre âme à chercher des manières plus élevées, plus saintes, d'aimer Dieu et notre prochain, et de fortifier notre foi et notre Père céleste et en Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre foyer et à l'Église. Quatrièmement, le feu de camp de notre foi nous encourage à établir des traditions justes qui approfondissent notre foi et notre spiritualité. Ces habitudes saintes, ces traditions justes ou ces modèles de piété peuvent inclure la prière, l'étude des Écritures, le jeûne, le souvenir du Sauveur et de nos alliances par l'ordonnance de la Sainte Cène, la transmission des bénédictions d'Évangile par l'œuvre missionnaire, celle du Temple et de l'histoire familiale et d'autres actes de service en tenant un journal personnel inspirant, etc. Lorsque les traditions justes et les aspirations spirituelles se rejoignent, le temps et l'éternité s'unissent. Nous recevons lumière et vie spirituelle par une pratique religieuse régulière qui nous rapproche de notre Père céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsque nous aimons l'Esprit et la lettre de la loi, les choses de l'éternité peuvent se distiller sur notre âme comme la rosée des cieux. Par l'obéissance et une eau vive rafraîchissante au quotidien, nous trouvons des réponses, la foi et la force d'affronter les difficultés et de saisir les possibilités de tous les jours avec patience, perspective et joie. Cinquièmement, lorsque nous perpétuons les meilleures traditions connues tout en cherchant des manières nouvelles et saintes d'aimer Dieu, d'aider les autres et nous-mêmes à le rencontrer, le feu de camp d'autrefois peut nous encourager à nous souvenir que la perfection est en Christ, pas en nous-mêmes, ni dans la façon dont le monde la conçoit. Les invitations de Dieu sont pleines d'amour et de potentiel parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. À qui se sent accablé par les fardeaux, il dit « Venez à moi » et à qui va à lui, il fait la promesse suivante « Je vous donnerai du repos ». Venez au Christ et soyez rendus parfaits en lui. Aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force. Alors, sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. Dans l'assurance que par sa grâce, nous pouvons être parfaits dans le Christ, se trouve aussi le réconfort, la paix et la promesse que nous pouvons continuer à avancer avec foi au Seigneur et confiance en lui, même lorsque rien ne va comme nous l'espérons, comme nous l'attendons, ou peut-être comme nous le méritons, sans qu'il y ait de faux de notre part, même après avoir fait notre mieux. À divers moments et à divers égards, nous nous sentons tous incompétents, peu sûrs de nous et peut-être indignes, mais lorsque nous efforçons fidèlement d'aimer Dieu et de servir nos semblables, nous pouvons sentir de façon nouvelle et plus sainte l'amour de Dieu et l'inspiration nécessaire pour eux et pour nous-mêmes. Notre Sauveur nous encourage avec compassion et nous promet que nous pouvons marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. La doctrine du Christ, l'expiation de notre Sauveur et notre engagement total à suivre le chemin des alliances peuvent nous aider à connaître ces vérités et contribuer à nous rendre libres. Je témoigne que la plénitude de son Évangile et de son plan du bonheur sont rétablies et enseignées dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, dans les saintes Écritures et par les prophètes depuis Joseph Smith jusqu'à Russell M. Nelson aujourd'hui. Je témoigne que son chemin des alliances mène au plus grand don que nous a promis notre Père céleste aimant. Vous aurez la vie éternelle. Puissent ses bénédictions et une joie durable être notre lorsque nous réchauffons notre cœur, notre espérance et notre engagement au feu de camp de notre foi. C'est là ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Il y a quelques semaines, j'ai pris part au service de baptême de plusieurs enfants de 8 ans. Ils avaient commencé à apprendre l'Évangile de Jésus-Christ auprès de leurs parents et de leurs instructeurs. La semence de leur foi en lui avait commencé à pousser. Maintenant, ils voulaient le suivre dans les eaux du baptême afin de devenir membres de son Église rétablie. En les voyant pleins d'impatience, je me suis demandé à quel point ils comprenaient l'un des aspects importants de leur alliance du baptême, prendre sur eux le nom de Jésus-Christ. Dès le commencement, Dieu a affirmé la prééminence du nom de Jésus-Christ dans son plan pour nous. Un ange enseigna à notre père Adam, « Tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils, tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. » Le roi Benjamin, prophète du livre de Mormon, enseigna à son peuple, « Il n'y aura aucun autre nom donné, ni aucune autre voie, ni moyen par lesquels le salut puisse venir aux enfants des hommes. » Le Seigneur réaffirma cette vérité au prophète Joseph Smith. Voici Jésus-Christ est le nom qui est donné par le Père, et il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel l'homme puisse être sauvé. À notre époque, Dallin H. Oaks a enseigné que les gens qui mettent leur foi dans le nom sacré de Jésus-Christ et contractent son alliance peuvent avoir droit au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Notre Père Céleste veut qu'il soit parfaitement clair que le nom de son Fils, Jésus-Christ, n'est pas simplement un nom parmi beaucoup d'autres. Le nom du Sauveur a un pouvoir exceptionnel et essentiel. C'est le seul nom par lequel le salut est possible. En insistant sur cette vérité dans chaque dispensation, notre Père aimant assure à tous ses enfants qu'il y a un moyen de retourner auprès de lui. Cependant, le fait d'avoir un moyen sûr à disposition ne signifie pas que notre retour est automatiquement assuré. Dieu nous dit que nous devons agir. C'est pourquoi tous les hommes et toutes les femmes doivent prendre sur eux le nom qui est donné par le Père. Pour accéder au pouvoir rédempteur du nom du Christ, nous devons nous humilier devant Dieu et nous présenter le cœur brisé et l'esprit contrit, et être disposé à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Alors nous serons qualifiés, comme mon jeune ami de 8 ans, à être reçu par le baptême dans son Église. Quiconque désire sincèrement prendre sur soi le nom du Sauveur doit se qualifier pour recevoir l'ordonnance du baptême comme témoignage tangible de sa décision devant Dieu. Toutefois, le baptême n'est que le commencement. Le mot « prendre » n'est pas passif. C'est un terme d'action aux nombreuses définitions. De même, notre engagement de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ exige une action et a de multiples dimensions. Par exemple, l'un des sens du mot « prendre » est « recevoir dans son corps ». Par exemple, « prendre un verre d'eau ». En prenant sur nous le nom du Christ, nous nous engageons à prendre ses enseignements, ses traits de caractère et à terme son amour au plus profond de notre être, afin qu'il fasse partie de notre identité. D'où l'importance de l'invitation qu'a lancée le président Nelson aux jeunes adultes de chercher vigoureusement et par la prière à comprendre ce que chacun de ces divers titres et noms signifie personnellement pour eux, et à se faire un festin des paroles du Christ dans les Écritures, en particulier dans le livre de Mormon. En anglais, le mot « prendre » a aussi le sens d'accepter une personne dans un rôle particulier ou d'adhérer à la véracité d'une idée ou d'un principe. Lorsque nous prenons sur nous le nom du Christ, nous l'acceptons comme étant notre Sauveur et adhérons continuellement à ses enseignements pour guider notre vie. Dans toutes les décisions importantes, nous prenons son évangile pour vrai et y obéissant de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Le mot « prendre » peut également signifier « soutenir un nom ou une cause ». La plupart d'entre nous ont déjà dû prendre des responsabilités au travail ou prendre parti pour une cause ou un mouvement. Lorsque nous prenons sur nous le nom du Christ, nous prenons sur nous les responsabilités d'un véritable disciple. nous défendons sa cause et nous sommes les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons. Le président Nelson a invité toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens à s'enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour aider à rassembler Israël. Nous sommes aussi tous reconnaissants de répondre à l'appel du prophète, d'utiliser le nom de l'Église rétablie du Seigneur tel qu'il a été révélé par le Sauveur lui-même, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En prenant le nom du Sauveur sur nous, nous devons comprendre que la cause du Christ et celle de son Église sont une seule et même chose. Elles ne peuvent être séparées. De même, notre condition de disciple du Sauveur et notre participation active dans son Église sont inséparables. Si nous fléchissons dans notre engagement vis-à-vis de l'un, notre engagement vis-à-vis de l'autre en sera indubitablement affaibli. Certaines personnes sont réticentes à prendre sur elles le nom de Jésus-Christ et sa cause parce qu'elles les considèrent comme excessivement étroits et restrictifs. En réalité, prendre sur nous le nom de Jésus-Christ est à la fois libérateur et épanouissant. Cela éveille le désir que nous avons ressenti lorsque nous avons accepté le plan de Dieu par la foi au Sauveur. Avec ce désir vivant dans le cœur, nous pouvons découvrir la véritable raison d'être des dons et des talents que Dieu nous a donnés, connaître son amour et le pouvoir qu'il procure, et nous soucier de plus en plus du bien-être d'autrui. En prenant sur nous le nom du Sauveur, nous nous saisissons véritablement de toute bonne chose et devenons semblables à lui. Il est important de nous souvenir que c'est un engagement pris par alliance, en commençant par celle que nous contractons au baptême. Le président Nelson a enseigné, notre engagement de suivre le Seigneur et de contracter des alliances avec lui et de les respecter ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les privilèges accessibles. L'un des privilèges divins que l'on reçoit quand on prend le nom du Sauveur sur nous par le baptême est l'accès qu'il ouvre à l'ordonnance suivante sur le chemin des alliances, notre confirmation. Lorsque j'ai demandé à une fillette de 8 ans ce que signifiait pour elle prendre le nom du Christ, elle a simplement répondu « Cela veut dire que je peux avoir le Saint-Esprit ». Elle avait raison. On reçoit le don du Saint-Esprit par confirmation après l'ordonnance du baptême. Ce don est le droit et la possibilité d'avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Si nous écoutons son murmure doux et léger et y obéissant, il nous maintiendra sur le chemin des alliances sur lequel nous sommes entrés par le baptême. Nous mettra en garde lorsque nous serons tentés de nous en écarter et nous encouragera à nous repentir et, le cas échéant, à faire des ajustements. Après le baptême, nous devons nous attacher à garder toujours le Saint-Esprit avec nous afin de continuer d'avancer sur le chemin des alliances. Le Saint-Esprit ne peut être avec nous que dans la mesure où nous menons une vie pure et exempte du péché. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous permet de constamment renouveler l'effet purificateur de notre baptême au moyen d'une autre ordonnance, la Sainte Cène. Chaque semaine, nous témoignons que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de son Fils, en tendant la main et en prenant les emblèmes de la chair et du sang du Christ, le pain et l'eau, et en les prenant dans notre âme même. En retour, le Sauveur accomplit une fois de plus le miracle de la purification et nous qualifie pour recevoir l'influence continue du Saint-Esprit. N'est-ce pas la preuve de la miséricorde infinie que l'on trouve uniquement dans le nom de Jésus-Christ? Tout comme nous prenons son nom sur nous, de même il prend sur lui nos péchés et nos chagrins. Et pourtant, son bras est encore étendu pour nous enserrer dans les bras de son amour. Chaque semaine, la Sainte Cène nous rappelle que prendre sur nous le nom de Jésus-Christ est un engagement actif et constant, et non un événement unique qui se produit seulement le jour de notre baptême. Nous pouvons continuellement bénéficier de ces divins emblèmes que l'homme ne comprend et qui dissipent nos peines, que Christ, sur lui, reprend. Il n'est donc pas étonnant que lorsque les enfants de Dieu comprennent les immenses bénédictions spirituelles qu'on peut recevoir en prenant sur soi le nom du Christ, leur sentiment soit toujours la joie et leur désir, toujours, de faire alliance avec leur Dieu. Si nous suivons ce chemin des alliances que Dieu a conçu, notre engagement et nos efforts pour prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, nous donnerons la force de toujours retenir son nom écrit dans notre cœur. Nous aimerons Dieu et notre prochain et aurons le désir de les servir. Nous garderons ses commandements et aspirerons à nous rapprocher de lui en contractant avec lui des alliances supplémentaires. Lorsque nous nous sentirons faibles et incapables d'agir conformément à nos désirs justes, nous implorerons pour avoir la force qui ne vient que par le nom du Seigneur. Elle viendra à notre aide. Si nous persévérons fidèlement, le jour viendra où nous le verrons et serons avec lui. Et nous découvrirons que nous sommes devenus semblables à lui, nous qualifiant ainsi pour retourner auprès du Père. Car la promesse du Sauveur est certaine. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ adorent le Père en son nom et persévèrent jusqu'à la fin dans la foi en son nom, seront sauvés dans le royaume de Dieu. Avec vous, je me réjouis du fait que ces bénédictions incomparables sont accessibles en prenant sur nous le nom de Jésus-Christ, de qui et au nom de qui je témoigne. Amen. Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la belle musique qui a été interprétée par ce chœur de missionnaires. En raison des récents changements apportés au calendrier de la conférence générale, nous rappelons aux sœurs de 8 ans et plus du fait qu'il n'y aura pas de réunion de prêtrise cet après-midi. Nous vous rappelons donc la session générale des femmes qui commencera ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City, dans le centre de conférence. La diffusion nationale de l'émission musicale La Parole sur les ondes aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Dieter Uchtdorf du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Ô vaillant guerrier d'Israël ». Johnny Koch des 70 fera ensuite la prière de clôture.
Mes chers frères et sœurs, c'est une merveilleuse occasion d'être avec vous en cette conférence générale merveilleuse. Pour écouter des messages inspirants et entendre ce chœur merveilleux de missionnaires représentant les milliers de missionnaires dans le monde, nos fils et nos filles. Et surtout d'être unis en foi aujourd'hui pour soutenir notre cher président Nelson, la première présidence et les officiers généraux de l'Église. Quelle joie aujourd'hui d'être avec vous. Salomon, roi de l'Antiquité, compte parmi les êtres humains qui ont connu les plus grandes réussites apparentes de l'histoire. Il semblait tout avoir, l'argent, le pouvoir, l'adulation et les honneurs. Mais après des décennies d'égocentrisme et de luxe, comment le roi Salomon résuma-t-il sa vie? Il dit « Tout est vanité ». Cet homme qui avait tout a fini désabusé, pessimiste et malheureux, en dépit de tout ce qui lui était acquis. Il existe un mot allemand, Weltschmerz. Il signifie en gros une tristesse qui vient de ce que l'on rumine la pensée que le monde est inférieur à ce qu'on pense qu'il devrait être. Peut-être y a-t-il un peu de Weltschmerz en chacun de nous, quand des chagrins silencieux s'immiscent dans notre vie, quand la tristesse emplit nos journées et projette des ombres sur nos nuits, quand la tragédie et l'injustice touchent le monde qui nous entoure, notamment la vie de nos êtres chers. Quand nous parcourons notre chemin d'infortune personnelle et solitaire, et que la souffrance entache notre sérénité et ouvre une brèche dans notre tranquillité, nous pourrions être tentés de dire, comme Salomon, que la vie est vaine et dépourvue de sens. La bonne nouvelle est qu'il y a de l'espérance. Il y a une solution au vide, à la vanité et au Weltschmerz de la vie. Il y a une solution, même au désespoir et au découragement les plus profonds que vous pourriez ressentir. Cette espérance réside dans le pouvoir transformateur de l'Évangile de Jésus-Christ et dans le pouvoir rédempteur du Sauveur de guérir notre âme malade. Jésus a déclaré « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Nous parvenons à cette vie abondante, non pas en nous concentrant sur nos besoins ou sur nos accomplissements personnels, mais en devenant de vrais disciples de Jésus-Christ, en suivant ses voies et en nous engageant dans son œuvre. Nous trouvons la vie en abondance en nous oubliant et en nous engageant dans la grande cause du Christ. Et qu'est-ce que la cause du Christ? C'est de croire en lui, d'aimer comme il a aimé et d'agir comme il a agi. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il a marché parmi les pauvres, les proscrits, les malades et les honteux. Il a servi les démunis, les faibles et ceux qui n'avaient pas d'amis. Il a passé du temps avec eux. Il a parlé avec eux. Et il les a tous guéris. Partout où il est allé, le Sauveur a enseigné la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a enseigné des vérités éternelles qui ont rendu les gens libres, tant spirituellement que matériellement. Quiconque se consacre à la cause du Christ découvre la véracité de la promesse du Sauveur. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mes frères et sœurs, Salomon avait tort. La vie n'est pas vanité. Au contraire, elle peut être pleine de sens et de paix. Les mains guérisseuses de Jésus-Christ sont tendues vers quiconque le recherche. Je sais, sans aucun doute, que croire en Dieu, l'aimer et s'efforcer de suivre le Christ change notre cœur, apaise nos souffrances et remplit notre âme d'une joie extrêmement grande. Bien sûr, nous devons faire plus qu'avoir une simple compréhension intellectuelle de l'Évangile pour qu'il ait cette influence guérisseuse dans notre vie. Nous devons l'intégrer à notre vie. Il doit faire partie de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Pour moi, la qualité de disciple commence par trois mots simples. Croire, aimer, agir. Croire en Dieu conduit à avoir foi en lui et à acquérir la confiance en sa parole. La foi fait grandir notre cœur dans l'amour de Dieu et des autres. Cet amour qui grandit nous incite à imiter le Sauveur tandis que nous poursuivons notre merveilleux voyage sur le chemin du disciple. Mais vous vous dites, Cela paraît un peu simpliste. Les problèmes de la vie, et certainement mes problèmes, sont bien trop complexes pour une prescription aussi simple. On ne peut pas guérir un Weltschmerz avec trois simples mots. Croire, aimer, agir. Non, l'aphorisme ne guérit pas. C'est l'amour de Dieu qui secourt, rétablit et ravive. Dieu vous connaît. Vous êtes son enfant, il vous aime. Même quand vous pensez que l'on ne peut vous aimer, il vous tend la main. En ce jour même, chaque jour, il vous tend la main, désirant vous guérir, vous édifier et remplacer le vide de votre cœur par une joie durable. Il désire balayer les ténèbres, quelles qu'elles soient, qui obscurcissent votre vie, et la remplir de la lumière sacrée et brillante de sa gloire infinie. J'ai vécu cela moi-même. Et mon témoignage d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ est que quiconque va à Dieu, quiconque croit, aime et agit, peut vivre la même chose. Les Écritures nous enseignent que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Pour certains, il est difficile de croire. Notre orgueil y fait obstacle parfois. Peut-être pensons-nous que parce que nous sommes intelligents, instruits ou expérimentés, nous ne pouvons tout simplement pas croire en Dieu. Et nous commençons à considérer la religion comme une folle tradition. D'après mon expérience, la croyance n'est pas un tableau impressionnant que l'on regarde et admire et dont on discute sur un plan théorique. Non, c'est une charrue que l'on mène au champ et qui, à la sueur de notre front, crée dans la terre des sillons qui acceptent des semences qui produisent du fruit qui demeure. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est la promesse faite à quiconque s'efforce de croire. Les Écritures révèlent que plus nous aimons, plus nous sommes heureux. Mais l'amour dont Jésus a parlé n'est pas une carte cadeau, un amour du genre « je jette et je passe à autre chose ». Ce n'est pas un amour dont on parle puis qu'on oublie. Ce n'est pas un amour du genre « dites-moi s'il y a quelque chose que je peux faire ». L'amour dont Dieu parle est du genre qui entre dans notre cœur quand nous nous réveillons le matin, demeure en nous toute la journée et gonfle dans notre cœur quand nous prions à la fin de la soirée. C'est l'amour inexprimable que notre Père Céleste nous porte. C'est la compassion infinie qui nous permet de voir plus clairement les autres pour ce qu'ils sont. À travers le prisme de l'amour pur, nous voyons des êtres immortels ayant un potentiel et une valeur infinie, et des fils et filles bien-aimés du Dieu Tout-Puissant. Une fois que nous voyons à travers ce prisme, nous ne pouvons pas ignorer, mépriser ou pratiquer de la discrimination contre qui que ce soit. Dans l'œuvre du Sauveur, c'est souvent par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Nous savons que pour devenir bon dans quoi que ce soit, il faut s'exercer encore et encore. Que ce soit pour jouer de la clarinette, mettre un ballon dans les filets, réparer une voiture ou piloter un avion, c'est par la pratique que nous nous améliorons. C'est exactement ce que l'organisation que notre Sauveur a créée sur Terre, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous aide à faire. Elle offre un lieu où nous exercer, à vivre de la manière qu'il a enseignée et à faire du bien aux autres comme il l'a fait. En tant que membres de l'Église, nous recevons des appels ou des responsabilités qui exigent de nous que nous tendions la main avec compassion et que nous servions les autres. Récemment, l'Église a mis davantage l'accent sur le service et l'amour du prochain. Nous avons soigneusement réfléchi au nom à donner à cet accent particulier. C'est une façon plus raffinée d'aimer et de servir nos semblables en les servant de multiples façons. Un des noms envisagés était un dérivé du mot berger, une allusion pertinente à l'invitation du Christ « Paix mes brebis ». Mais il avait au moins un inconvénient. L'utilisation de ce terme aurait fait de moi et de mes semblables allemands un berger allemand. Par conséquent, je suis très satisfait du terme « service pastoral ». Bien évidemment, cet accent n'est pas nouveau. Il nous donne simplement une occasion renouvelée et raffinée d'appliquer le commandement du Sauveur, de nous aimer les uns les autres. Parler de l'Évangile avec courage, humilité et confiance est un merveilleux exemple de la façon dont nous servons les autres en répondant à leurs besoins spirituels. Ou bien accomplir l'œuvre du temple, chercher les noms de nos ancêtres et leur offrir les bénédictions de l'éternité. Quelle manière divine de servir! Réfléchissez au fait de rechercher les pauvres et les nécessiteux, de relever les mains qui tombent, ou de bénir les malades et les affligés. Est-ce que ce ne sont pas les actes de pur service pastoral que le Seigneur a accomplis quand il était sur la terre? Si vous n'êtes pas membre de l'Église, je vous invite à venir et voir, à venir et nous rejoindre. Si vous êtes membre de l'Église, mais n'êtes pas pleinement engagé actuellement, je vous invite, s'il vous plaît, revenez. Nous avons besoin de vous. Venez joindre vos forces aux nôtres. Par vos talents, vos capacités et votre personnalité unique, vous nous aiderez à devenir meilleurs et à être plus heureux. En retour, nous vous aiderons aussi à devenir meilleurs et à être plus heureux. Venez nous aider à établir et fortifier une culture de guérison, de bienveillance et de miséricorde envers tous les enfants de Dieu. Nous nous efforçons tous de devenir une nouvelle créature afin que les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles. Dieu nous montre la direction à suivre, en avant et vers le haut. Il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Travaillons tous ensemble pour devenir le peuple que Dieu voulait que nous devenions. C'est le genre de culture de l'Évangile que nous désirons établir dans toute l'Église de Jésus-Christ. Nous nous efforçons de fortifier l'Église pour qu'elle devienne un lieu où nous nous pardonnons les uns les autres, où nous résistons à la tentation de trouver des défauts, de nous livrer au commérage et de rabaisser les autres, où au lieu de mettre l'accent sur les imperfections, nous nous édifions et nous aidons les uns les autres à devenir les meilleures personnes possibles. Je vous lance de nouveau cette invitation. Rejoignez-nous. Venez et voyez. Nous avons besoin de vous. Vous découvrirez que cette église est remplie de certaines des meilleures personnes que ce monde a à offrir. Elles sont accueillantes, aimantes, gentilles et sincères. Elles font des sacrifices, elles travaillent dur et sont même héroïques parfois. Et elles sont aussi douloureusement imparfaites. Elles font des erreurs. De temps en temps, elles disent des choses qu'elles ne devraient pas dire. Elles font des choses qu'elles regrettent ensuite. Mais elles ont ceci en commun. Elles veulent s'améliorer et se rapprocher du Seigneur, notre Sauveur. Notre Sauveur Jésus-Christ. Elles essayent de bien faire. Elles croient. Elles aiment. Elles agissent. Elles veulent devenir moins égoïstes, plus compatissantes, plus raffinées, plus semblables à Jésus. Oui, la vie peut être difficile par moments. Il est certain que nous avons tous des moments de désespoir et de découragement. Mais l'évangile de Jésus-Christ offre l'espérance. Et dans l'Église de Jésus-Christ, nous nous joignons à d'autres personnes qui recherchent un lieu où nous nous sentons à notre place, un lieu de progression, où ensemble, nous pouvons croire, aimer et agir. Quelles que soient nos différences, nous cherchons à nous accueillir les uns les autres en tant que fils et filles de notre Père Céleste bien-aimé. Je suis reconnaissant, au-delà de toute mesure, d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et de savoir que Dieu aime suffisamment ses enfants pour leur donner un plan qui donne bonheur et sens à cette vie et un moyen de connaître une joie éternelle dans des lieux de gloire dans la vie à venir. Je suis reconnaissant que Dieu nous ait donné un moyen de guérir les maux de l'âme et le Weltschmerz de la vie. Je témoigne et vous laisse ma bénédiction que si nous croyons en Dieu, si nous l'aimons et aimons ses enfants de tout notre cœur et nous efforçons d'agir comme Dieu nous l'a demandé, nous trouverons la guérison et la paix, le bonheur et le sens de la vie. Au nom sacré de notre Maître, au nom de notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père Céleste bien-aimé, nous venons devant toi avec un cœur plein de gratitude, de reconnaissance pour ces enseignements, l'esprit que nous avons ressenti venant de nos prophètes, apôtres et dirigeants aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de la musique qui a été fournie par ce cœur des missionnaires. Nous te remercions en particulier, Père, pour cet esprit si doux que nous avons ressenti aujourd'hui. Nous te demandons de nous bénir avec le courage, la détermination, les capacités aussi pour que nous puissions agir sur les sentiments que tu nous as suggérés à travers cette musique, à travers tes serviteurs. Bénis-nous, Père, avec cette capacité de préparer nos esprits, notre cœur pour les autres sessions de cette conférence générale, pour les révélations personnelles que nous pouvons recevoir. Nous prions humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 188th semi-annual 8e
conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur de missionnaires du Centre de formation des missionnaires de Provo, en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.